www.energie.com.
Ouellette.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
Ah, ça se poursuit, la guerre dans la bande de Gaza. Oui, il y a eu une proposition. Ça, quand même, il y a plusieurs personnes qui ont été étonnées. Parce que la dernière proposition que Donald Trump avait faite, c'était Riviera-Gaza. Avec le,
ben
excusez,
oui.
Je ris parce que le vidéo qui venait avec ça était lunaire. Là.
Ah, c'était malade. C'était une vue magique. Avec.
C'était drôle. Angoissant et malaisant en même temps.
Bon, on se disait, on va laisser les premiers à être les premiers, puis on va regarder non, ça aller.
Le vidéo où Elon Musk flappe du cash pendant que Trump danse en arrière avec des statues en or. C'était incroyable. C'est incroyable dans le bon sens. C'était comme, ben voyons donc qu'ils ont fait ça, qu'ils ont partagé ça. Mais finalement, quand on regarde la vraie proposition, ben là, c'est autre chose. On est un peu plus dans le terre-à-terre. Et on va décortiquer, on va jaser de tout ça avec notre analyste géopolitique du Média indépendant 7 jours sur Terre. Trouvez-le sur Facebook. Trouvez le canal 7 jours sur Terre sur Facebook pour entendre Benjamin Tremblay que voilà. Salut Benjamin.
Salut JC, merci de me recevoir.
Ben, Colin, ça sera pas un tout inclus avec alcool à volonté dans la bande de Gaza. Ça sera autre chose. Si ça passe, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, est-ce qu'on a des chances que ça passe? Je sais pas si on pourrait peut-être résumer l'offre de Donald Trump, là.
Ouais, ben ça vaut la peine qu'on revienne sur le plan parce qu'on en parle depuis des mois, là, ces négociations-là avec le Hamas, puis on dit, bon, on est proche d'avoir un deal, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, et on n'a pas vraiment les détails du deal en question. On sait en ce moment qu'il y avait 3 propositions qui ont été faites, une par les Américains, par Donald Trump. On en a une qui a été proposée aussi, c'est ce qu'on appelle le plan de New York, là, qui est en fait une proposition par les Saoudiens et les Français. Et bon, additionnellement, tu as une proposition, bien sûr, qui provient là, de l'ONU plus largement. Mais ce qu'on a sur la table actuellement, ce qui est le plus crédible, ça semble être la proposition américaine, alors qu'on nous parle d'avoir aussi l'appui de la Turquie, ce qui s'en surprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Normalement, la Turquie devrait se tenir loin de tout ça et être un peu plus, disons, hostile là, aux idées d'assimilation, d'annexion de Gaza, etc. Puis, on a donné un appui qui a fait beaucoup de bruit. Donc, vaut la peine de revenir sur ce plan-là. Là, ce qu'on nous dit d'abord, c'est un cessez-le-feu total et immédiat. Ça veut dire suspension de toutes les opérations militaires. On gèle la ligne de front où on est actuellement. Ensuite, on dit qu'en dedans de 72 heures de l'acceptation du plan, il faut que tous les otages israéliens, là on parle vivants et décédés, doivent être retournés. On sait qu'il y en a plusieurs qui sont actuellement très amochés, plusieurs d'autres qui sont complètement, qui sont carrément décédés. Et donc, à ce moment-là, il y avait l'enjeu de savoir, bon, la Hamas essaie de retenir un levier, de dire, on vous en donne 2, puis 3, puis 4 à la fois, là, en attendant qu'on implémente le plan. Là, on dit tout le monde d'un seul coup. En retour, Israël faudrait qu'il libère tous les prisonniers palestiniens, ou du moins plusieurs prisonniers palestiniens.
Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup.
Oui, on parle de centaines. Puis là, plusieurs là-dessus, en passant, qui ont été condamnés à perpétuité. Donc, on parle vraiment de condamnations très graves. Là, on dit qu'il faudrait retourner ce monde-là du côté de la Palestine, de Gaza, en fait, parce qu'on considère que ce serait donc des arrestations dans le cadre de l'opération militaire, donc essentiellement des prisonniers de guerre. Ensuite, on nous dit que tout ce qu'il y a d'infrastructures terroristes, les tunnels, les usines d'armes, tout ça, ce serait détruit et ça pourrait pas être reconstruit ensuite. Ça, c'est le plan là, qui nous parle de déradicalisation de Gaza. Ça, savoir qui serait responsable de tout ça. Pour l'instant, on nous parle de l'administration. On sait pas c'est qui là, qui administrait Gaza au bout de tout ça. La gestion quotidienne de Gaza, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre depuis le début. C'était qui allait gérer après. Ouais.
Est-ce qu'on les expulse? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les surveille? Est-ce que c'est ça, là, on est là.
Ouais. Ben, tu l'as mentionné tout à l'heure, là, c'était vraiment ça le nerf de la guerre. Là. Au début, on nous parlait d'expulser tous les Palestiniens, de remettre ça essentiellement sous le contrôle des États-Unis pendant 10 ans. On nous avait fait tout un plan pour transformer ça, oui, en espèce de Riviera Gaza. Là, pour le moment, on nous dit qu'on donnerait ça, puis c'est très flou. Je veux être clair, là. C'est de la merde totale, ce côté-là de la proposition. On n'a aucune idée. C'est de la frime. Là. On nous dit que ce serait remis... La gestion de Gaza serait assurée par une commission de technocrates palestiniens.
Que Trump a appelé le comité de la paix.
Ouais, donc des Palestiniens qui seraient choisis en accordant ce temps avec les États-Unis qu'avec l'autorité palestinienne et avec Israël. Fait qu'il faudrait que tout le monde soit d'accord que ce sont des modérés. On l'appelle effectivement le Board of Peace. Donald Trump serait à la tête de ce fameux Board of Peace, en passant, avec quelques personnalités qu'on a évoquées, notamment l'ancien premier ministre britannique Tony Blair.
Ouais.
Finalement, pour tenir tout ça en place, c'était un autre enjeu. On se demandait qui va venir assurer la sécurité. On nous parle d'un corps de stabilisation internationale qui serait déployé. Donc, essentiellement, une force qui ne serait pas sous l'autorité de l'ONU. Ça, c'est important de le comprendre. On sait que les Américains ont une grosse réticence à envoyer l'ONU faire quoi que ce soit. Puis soyons certains, soyons sincères, ça ne fonctionne que très rarement bien. On a l'exemple juste de l'autre côté de la frontière au Liban. On a une mission de l'ONU qui est là depuis des années et qui est essentiellement inutile. Donc, ce n'est pas un bon modèle à reproduire dans la région d'après les Américains. Eux s'en vont plutôt vers une mission qui sera assurée par d'abord une police palestinienne et avec l'aide donc, d'acteurs internationaux de la région. Donc, on parle probablement l'Égypte, l'Arabie saoudite, etc.
Mais il y aura des craintes parce que j'imagine que les Américains chapeauteraient aussi un peu tout ça.
C'est ce qui embête tout le monde. C'est pour ça qu'on a été très surpris de voir les Turcs notamment donner un appui, parce que ça revient à donner l'autorité sur Gaza, essentiellement un droit de veto à Israël sur qui va gérer Gaza après la guerre. C'est eux qui vont avoir le droit de déterminer est-ce qu'ils sont assez modérés ou pas, et le rythme auquel l'accord de paix va être implémenté, puis quelles conditions vont être respectées.
Ce qui m'a surpris quand même, parce que j'ai bien compris que les pays européens en ont ras-la-bol. Les autres qui ont dit oui, merveilleux, Trump, prix Nobel de la paix, c'est extraordinaire, c'est une très, très bonne idée, là, tout le monde a embarqué. Mais ce qui m'a étonné, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, c'est quand même la réponse que j'ai trouvée, somme toute, très, très positive de tous les pays arabes et même musulmans. Mmh. Il y a comme eu une espèce de... ça a été l'unanimité ou presque. Est-ce qu'on est encore dans la frime ou sont sincères, là?
Là-dessus, ce qu'on entend de la part des Américains, là, la Maison-Blanche et les conseillers autour de Trump, ce qu'ils nous mentionnent, c'est que c'est vraiment, ironiquement, la frappe israélienne sur le Qatar qui a réuni tout le monde. Et que là, maintenant, depuis ce moment-là, tous les pays arabes parlent de la même voix, veulent vraiment que le conflit s'arrête, que l'escalade stoppe, et on appelle à un retrait complet du Hamas. La patience commence vraiment à arriver à bout, parce que jusqu'ici, c'est un conflit qui... Il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Là. Le conflit ne dépassait pas vraiment la région immédiate autour d'Israël. Là, tu as le Qatar qui utilisait ça aussi comme une manière d'extraire de l'influence, d'agir comme médiateur. Soudainement, le conflit se transporte chez lui. Y a des gens qui ont moins de patience. Ensuite, les positions arabes qui sont très, très, très larges sur l'éventail. Là, t'as l'Iran qui dit on devrait détruire Israël puis arrêter toutes les relations. Ouais. Et t'en as d'autres, comme par exemple la Turquie, qui vont dire on devrait juste faire un boycott commercial, etc. Fait que t'as une forme d'unanimité qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, on n'est pas particulièrement enthousiaste vis-à-vis du plan américain. Mais encore une fois, il faut revenir sur l'alternative. Trump, c'est sa manière de négocier. On te présente l'intolérable, puis ensuite, on te présente l'indésirable. Ouais. Toi, tu acceptes l'indésirable, des concessions que tu n'aurais jamais autorisées auparavant. Mais là, tu as l'impression d'avoir gagné parce que tu as évité l'intolérable.
C'est vrai. C'est pas la première fois que tu fais cette analogie-là. Puis elle est excellente parce que c'est vrai. On va aller au pire. Hey, écoute, la vidéo, j'en parlais en riant parce que c'était tellement risible. C'était une farce. Là. Pendant que des gens se font bombarder, ça explose de tous les bords. Il y a des morts par dizaines, par centaines à toutes les semaines. Eux autres, ils mettent une vidéo où les gens boivent de l'alcool, ont du fun sur la beach avec un DJ, puis l'autre qui flash du cash. Puis ça, c'était l'intolérable.
Donc, provocation. C'était carrément la provocation.
Finalement, on a des vraies clauses sérieuses. On va y aller. Maintenant... Le Hamas, qui est au centre de cette affaire-là, tout en étant complètement exclu, c'est-à-dire que c'est eux autres qui gèrent, dont le problème vient. On comprend que, oui, Israël, mais le Hamas, c'est l'entité extrémiste terroriste. Et là, on leur dit, vous devez disparaître. Ça, je résume, là, mais c'est un peu ce qu'on dit. Et on leur dit, vous devez aussi accepter qu'on vous demande de disparaître. Donc, on avait donné 3 ou 4 jours. Ça fait maintenant 2 jours. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Là, je viens de voir un article dans le Figaro où on dit que les dirigeants du Hamas veulent amener des garanties. Premièrement, qu'eux-mêmes auront la vie sauve, j'imagine. Ils veulent des garanties internationales qu'Israël va se retirer intégralement dès le départ. Ouais. Est-ce que le Hamas va accepter de s'autodétruire?
Le deal va vraiment juste en faveur d'Israël, honnêtement. Ça a été configuré presque entièrement pour laisser de la marge de manœuvre à Israël. C'est-à-dire, là, on n'a comme pas vraiment de spécifications, de détails par rapport à un État palestinien. On nous parle, on reconnaît l'aspiration des Palestiniens, mais on ne nous parle pas de comment on va arriver éventuellement à une reconnaissance d'un État. Ensuite de ça, pour ce qui est du Hamas, on a déjà des garanties qui sont sur la table, qui ne sont pas mauvaises, où on nous dit ceux qui acceptent vont avoir le droit de partir en exil, donc de quitter tout simplement, et ceux qui ont été responsables de crimes obtiendraient l'amnistie totale.
Ils vont aller où?
on les veut pas vraiment, la question. Probablement qu'ils seraient reçus à ce moment-là dans un État adjacent. On pense, par exemple, potentiellement même à l'Iran. Ce n'est pas exclu. L'Iran n'a pas une affiliation directe avec le Hamas, mais c'est probablement la meilleure destination, si on veut l'imaginer comme ça. Cela étant dit, c'est qu'ils vont s'exposer à des bombardements. Donc là, on se retrouve avec l'autre problème. C'est un peu ce qui s'est produit quand on a tué le leadership du Hamas là, au Qatar. On se posait la question à dire où ils peuvent aller. Il y a 1 million d'endroits où ils peuvent aller. Il y a plein de pays qui vont les recevoir. Le problème, c'est que s'ils se rendent là, est-ce qu'ils sont à risque de bombardement israélien? Si la réponse, c'est oui, ton amnistie ne vaut pas grand-chose.
Alors, ça prend...
C'est ça. Il faudrait essentiellement les envoyer aux États-Unis, ce qui n'est vraiment pas quelque chose qui est sur l'agenda Trump. Là. Donc là-dessus, la question de où s'en vont les membres du Hamas, je pense qu'ils ont raison de se poser la question à savoir quels détails vont être fournis là-dessus. Mais au bout de la ligne, là, c'est surtout une question de savoir à quel rythme Israël va se retirer de Gaza. En ce moment, ce qu'on nous dit tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas le droit de l'annexer, mais on nous promet un retrait progressif, graduel des forces israéliennes en conservant un périmètre de sécurité tant et aussi longtemps qu'il existe, entre guillemets, un risque terroriste. Fait qu'écoute, tant qu'il reste un opérateur du Hamas dans bande de Gaza au complet, Israël va avoir le prétexte. C'est ça. Puis il faut se mettre dans le contexte à quel point Israël était sous pression au moment de rentrer dans cette réunion avec Trump avant-hier, lundi. On a eu une réunion à la Maison-Blanche dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU. Netanyahou voulait un peu aligner ses flûtes avec Trump et tout le monde s'attendait à ce que Trump y rentre dedans. Assez que, pendant que Netanyahou était en avion en s'en venant aux États-Unis à New York, Trump a pris un téléphone de qui? De l'émir du Qatar, qui vient de se faire bombarder par Israël, qui appelait Trump pour s'assurer « Hey, là, tu vas pas nous choquer. Il faut que tu resserres un peu la pression sur Israël. » S'avère-t-il que le deal qui est sorti de ça, c'était un deal qui était hautement favorable à Israël et Netanyahou est mort de rire. Là.
Et sacré Donald, hein, lui, il les a mis en appel conférence.
Exact. Ça, c'est aussi, c'est un dessin hallucinant.
Hey, reste là, bouge pas, là. Mon chum s'en vient, là. Pouf, on est en appel conférence. Parlez-vous, là.
Puis de cette scène-là, moi, ce qui me fascine, c'est que Trump a exigé de Netanyahou qu'il s'excuse à l'émir du
Bibi,
Qatar.
Excuse-toi
pour la frappe de la... Puis ça, il faut se souvenir, là. Quelques semaines, on a cette frappe sur le Qatar. Les Américains sont en colère, disent « Trump appelle l'émir du Qatar pour lui dire « Je te promets, ça ne se reproduira plus jamais ». Le lendemain, Netanyahou est à côté du secrétaire d'État américain, côte à côte, puis il dit « Oui, on va la refaire ». Donc là, Trump, de la voir Netanyahou à Maison-Blanche et de dire « Là, mon homme, tu prends le téléphone, tu l'appelles et tu t'excuses et tu dis que ça n'arrivera plus. » C'est aussi loin que les États-Unis ont été jusqu'ici vis-à-vis Israël. C'est assez impressionnant en tant que tel.
Coucouche panier. Merci beaucoup, Benjamin. Toujours un plaisir. Puis là, écoute, l'ultimatum de Trump arrive soit demain ou samedi parce qu'il a dit 3 ou 4 jours. Donc, c'est la précision qu'on a, là.
C'est notre 14e plan de 2 semaines. On va garder ça en réserve.
donc, on s'en reparle la semaine prochaine. Voilà. Salut! Aïe, aïe, aïe. 13h15, Benjamin Tremblay du canal YouTube 7 jours sur Terre. Toujours intéressant. Il y a des gros dossiers qui s'en viennent d'ailleurs sur 7 jours sur Terre. Surveillez ça. On revient. On fait une courte pause. Gary s'en vient. Je pense qu'il était à une conférence de presse avec un certain Bruno Marchand. On aura peut-être des nouvelles.
Ah, intriguant!
Je sais pas. Ça a l'air que ça serait fait parler de certaines dépenses de restaurant.
OK, il y avait des sujets.
Je sais pas.
OK.
On va tout savoir ça après la pause.
Ouellette, en direct.
Radio. X.